Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous connaissez la maxime, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Et en cette période de campagne présidentielle, elle nous a donné envie de remonter le temps pour découvrir les promesses et les candidatures les plus étonnantes de notre histoire. Et c'est l'écrivain et haut fonctionnaire Bruno Fulini qui étanche notre curiosité, parce qu'elle est immense cette curiosité. Avant de faire des promesses, bien sûr, il faut se porter candidat. Aujourd'hui, il y a des formalités qui sont quand même importantes. Lesquelles pour la présidentielle? Alors, c'est pas que je veux m'y mettre, hein, mais bon...
Sait-on jamais, hein, sait-on vous avez jamais. Peut-être vos chances, mais disons qu'il faut déjà recueillir les fameuses 500 signatures d'élus. Ça, c'est relativement ancien. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui a trait au financement de la campagne. Il faut une association de financement, il faut tenir des comptes de campagne. Tout ça est relativement récent et tranche avec une époque où il n'y avait pas de formalité pour se présenter. C'est-à-dire que s'il y avait des bulletins au nom de Sidonie Bonnec dans l'urne, on les décomptait. Et c'est ainsi d'ailleurs que...
C'était avant quoi? Avant 1930, 40?
Oui, avant 1940. Il n'y avait vraiment pas de formalité. À telle enseigne que, par exemple, ont été élus des gens qui étaient en prison. On les faisait élire pour les faire libérer, en fait, parce que le suffrage universel les lavait en quelque sorte de leur condamnation.
Mais on pouvait même donner son bulletin à quelqu'un qui n'était pas candidat. Oui. On inscrivait le nom qu'on voulait.
Il suffisait que la personne soit citoyenne. Alors il y a un exemple extraordinaire, c'est celui du chansonnier Béranger en 1848. 1848, c'est le moment où est proclamé le suffrage universel et la République. Et le peuple de Paris a un héros qui est un vieil homme dont tout le monde connaît à l'époque les chansons parce que c'est des chansons démocrates, anticléricales. Et donc évidemment, tout le monde considère que Béranger, il est partie prenante, il est pour cette République. Ouais. Et donc, eh bien, il est élu. Il est élu représentant du peuple, c'est-à-dire membre de l'Assemblée nationale constituante. Et sauf qu'il n'a aucune envie. C'est un vieil homme, il n'a pas du tout envie de faire une carrière politique. Et alors, il envoie une première lettre de démission qui est refusée, parce que les députés sont ravis d'avoir un collègue aussi célèbre, aussi prestigieux. Et il fait une deuxième lettre de démission dans laquelle, eh bien, il explique qu'il est dans un état d'incapacité législative. Il ne sait pas rédiger une loi. Il sait écrire des chansons.
C'est honnête.
Et il supplie ses collègues, ce sont ses propres termes, de le rendre à l'obscurité de la vie privée. Là, c'est un cas assez extraordinaire de personnalité qui n'est pas candidate, qui est élue et qui ne veut pas siéger.
Alors, dans votre histoire amusée des promesses électorales publiée chez Talendier, Bruno Fulini, vous nous faites notamment découvrir ces candidats poètes. On a le dénommé Ferdinand Parfus. Alors, où et quand se présente-t-il?
Alors, il se présente également à Paris. Alors, lui n'est pas un poète.
C'est 1848 aussi.
En 1848, exactement, à la même époque. Donc, c'est l'époque vraiment utopique, hein, de la République, où tout semble permis, tout semble autorisé. Et Ferdinand Parfus, en fait, c'est un pauvre homme. Au départ, il était instituteur et il a perdu la vue. Il est devenu aveugle à une époque où il n'y a aucune forme de sécurité sociale, quoi que ce soit. Et donc, il vit assez misérablement d'un travail de coutelier. Et voilà, cette République qui arrive, c'est l'élection de cette Assemblée nationale constituante, c'est une chance. Et donc, il présente sa candidature sous la forme d'un long poème. C'est sa seule œuvre écrite. On a de Ferdinand Parfus des couteaux signés et une affiche en vert, et il explique qu'il faut voter pour lui, qu'il sera un homme dévoué, et puis que ce serait un petit peu rétablir la justice, parce qu'il a été tellement malheureux que si on l'élisait député, bon, évidemment, il fera une poignée de voix, il ne sera pas élu, mais ses vers sont assez touchants dans leur maladresse.
Ça donne « Ô peuple, si tu crois qu'un obscur ouvrier puisse servir tes droits sous l'humble tablier soumis au jugement de ton aéropage, oui, peuple souverain, je brigue ton suffrage. »
Bon, c'est pas tout à fait Victor Hugo,
non,
mais
c'est l'intention.
50 ans après Ferdinand Parfus, un certain Aristide Bruand se présente. Vous nous rappelez qui il est?
Oui, alors lui, bien sûr, c'est un chansonnier célèbre, un chansonnier populaire. À la Villette, vous avez tous entendu un grésiller des vieux disques avec ce type de chanson.
Bon, c'était pas Jean-Jacques Goldman, mais c'était bien quand même.
C'était un peu ça. Il cultivait l'argot. Ouais. Il était très, très populaire. Et donc, il se présente comme candidat indépendant, un peu socialisant, un peu antisémite sur les bords aussi, hein, faut pas le cacher, avec l'idée que s'il était élu député, ohé ohé, les choses iraient bien mieux et qu'on parlerait des pauvres. Et donc il y a un long chant, parce que c'est pas seulement un poème, là c'est vraiment une chanson. C'est vraiment une chanson un peu démagogique, un peu populacière. Lui aussi ne fera qu'une poignée de voix.
Bruno Fulini, il y a aussi les candidats, en entendant leur nom, on se dit ils auraient dû vraiment choisir une autre carrière. Vous avez quelques exemples, des exemples récents d'ailleurs. Il y a une Nadine Pinochet par exemple.
Oui, la pauvre, surtout qu'elle se présente plutôt à l'extrême gauche de l'échiquier. Donc bon, Pinochet est un nom d'origine française, hein, il faut le savoir. Il y a beaucoup de Pinochet. Pinochet en France. Hein, et donc,
qui a été évidemment le dictateur du Chili pendant de très nombreuses années. Donc voilà. Pour une trotskiste, c'est particulier.
Voilà. À l'extrême droite, j'ai trouvé une Madame Führer, ce qui est un petit peu embêtant.
Joli
aussi.
Nom de scène.
Voilà, voilà. Alors, évidemment, dans ce cas-là, c'est quasiment irrattrapable. Vous avez parfois des candidats qui cherchent à donner des explications, mais ce n'est pas génial. Au Québec, il y a eu un malheureux candidat à des municipales dans une localité qui n'était pas de premier plan. Ça aurait dû passer à peu près inaperçu. Mmh. Mais le pauvre homme s'appelait Robert Mabit. Et alors, il n'a même pas eu besoin de faire des affiches. Les internautes s'en sont chargés. On a vu fleurir
ça veut
toutes sortes de slogans.
Ça veut peut-être dire autre chose, Mabit en québécois.
Je ne
sais pas.
Oui, parce que les gosses, ça veut dire autre chose.
Voilà, c'est ça.
En québécois. Il y a aussi un Constant Le Pourri qui se présente dans les années 60.
Et qui a été élu. C'est-à-dire que le fait d'avoir un nom difficile à porter n'est pas forcément un obstacle, ouais. Si vous êtes vous-même honorable et honnête, ce qui était le cas. Donc, il a été député gaulliste de la Manche de 1962 à 1967. Si on regarde la liste des hommes politiques français, on trouve un monsieur Million, un monsieur Milliard, un monsieur Lepez. Et tous ont été des gens d'une très grande intégrité, jamais inquiétés dans aucune affaire d'argent.
Bon, alors, il n'était pas concerné par ce ministère des affaires pas propres créé par Coluche en 1981.
Des promesses amusantes, farfelues, loufoques, il y en a eu beaucoup. Sous la Troisième République, il y avait même un registre pour les consulter, le Barodet. On va le feuilleter ensemble dans une minute sur RTL.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Des candidats qui font des promesses intenable, ça ne vous rappelle rien, c'est aussi
rien.
Mieux que la politique, et c'est souvent savoureux, comme nous le rappelle notre invité, l'historien Bruno Fulini. Le temps s'est bien radouci depuis quelques jours, mais il y a une promesse qui sonne bien aux oreilles des frileux. Elle date de 1920, elle est signée Jules de Pâqui. Qu'est-ce qu'il nous promet, ce monsieur de Pâqui?
Ah, c'est très séduisant. Suppression des mois de décembre, janvier et février, jamais d'hiver. C'est pas
c'est
mal.
Joli. Ouais, c'est pas mal.
Ça
ouais.
Sert à quoi? Il le justifie, non? C'est juste...
Ça s'intègre dans un programme assez général, où il est question également de remplacer les fontaines d'eau par des fontaines de vin avec blanc, rosé ou rouge selon le goût.
Dans le loufoque absolu.
Alors attention, hein, Jules de Pâqui n'est pas un politicien, c'est un écrivain, un artiste, un dessinateur de grand talent qui vit à Montmartre. Et Montmartre, c'est vraiment la capitale de la loufoquerie politique à partir des années 1880. Et il y a une vraie tradition du candidat loufoque qui naît véritablement à Montmartre et qui va être cultivée très très longtemps. Donc de Pâqui se présente en 1920 comme candidat anti-gratte-cielliste, il ne faut pas construire de gratte-ciel sur la butte Montmartre, et avec toute une série de mesures loufoques, il va d'ailleurs être élu maire de la commune libre, et il va prendre des édits absolument incroyables. Par exemple, il va être interdit de mourir sur le territoire de la commune.
Alors, il y a une partie de ces programmes loufoques, et parfois visionnaires d'ailleurs, ils sont assez touchants pour ça. Vous les avez trouvés, Bonnefilly, dans un registre, le Barodet. C'est quoi le Barodet?
Alors, le Barodet, c'est un registre qui existe toujours d'ailleurs, et qui doit son nom à un député de la Troisième République, Désiré Barodet, qui était un député radical, un ancien instituteur, un bon républicain, un petit peu à cheval sur les principes, et il trouvait que certains de ses collègues, comme Gambetta par exemple, promettaient beaucoup de choses dans les réunions électorales et puis se comportaient des fois de façon un petit peu différente lorsqu'ils étaient élus.
Ah bon ?
Et voilà. Et donc pour remédier à cela, il avait trouvé la solution, il a fait voter une résolution selon laquelle les professions de foi des candidats élus députés sont conservées et rassemblées dans un registre qu'on appelle maintenant le Barodet. Alors dans son esprit, bien sûr, c'était pour que les citoyens, à la fin du mandat, puissent se reporter à la profession de foi et voir si leur député avait été fidèle à ses engagements. En fait, plus personne ne consulte le Barodet aujourd'hui, sauf les historiens. Parce que pour les historiens, c'est une mine extraordinaire. Ce sont, depuis 1881, des milliers de pages d'engagements électoraux de toutes sortes, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en français ou en langue régionale, des textes extrêmement courts ou des textes de plusieurs dizaines de pages, des appels au meurtre, des choses
des
insensées.
Tracts, y a tout ce
insensées.
Qu'on veut,
voilà. Donc là, c'est une littérature politique absolument colossale et c'est vrai que je me suis immergé dedans pour ce qui est des législatives, sachant qu'il a fallu aussi, bien évidemment, retrouver, c'est plus compliqué, les programmes des candidats aux présidentielles, sénatoriales, élections locales, etc. Le problème de tous ces tracts, c'est qu'ils sont extrêmement dispersés. Mais quand on finit par les retrouver, c'est très instructif sur l'état d'esprit des Français à une époque. Pas tellement du candidat, mais des électeurs.
Parce qu'ils s'adressent aux électeurs.
Auxquels ils s'adressent.
Alors pour tous ces candidats qui se présentent à différents mandats, il y a évidemment les promesses. Et puis pour se faire élire, il y a aussi le CV qu'on peut mettre en valeur, comme Alexandre Dumas, qui en 1848, il se présente... surtout quelle élection déjà ?
Alors toujours pareil, hein, pour devenir représentant du peuple, il va même se présenter deux fois. Alors lui ne sera pas élu, ce pauvre Alexandre Dumas. Et pourtant, il a des arguments intéressants. Hein, il explique, alors là on est en Seine-et-Oise, plus tard il ira dans l'Yonne. Je me porte candidat à la députation, voici mes titres, sans compter 6 ans d'éducation, 4 ans de notariat et 7 années de bureaucratie. J'ai travaillé 20 ans à 10 heures par jour, soit 73 000 heures. J'ai composé 400 volumes et 35 drames. Ces drames et livres, en moyenne, ont soldé le travail de 2160 personnes.
Donc lui, c'est de travailler plus pour gagner plus, Alexandre Dumas.
En tout cas, il est lui-même une richesse et il faut faire tourner cette richesse dont profite l'ensemble du pays. Bon, les électeurs ne vont pas être malheureusement convaincus par cet argument.
Alors, vous publiez, et cette citation, on la retrouve dans votre livre, votre histoire amusée des promesses électorales de 1848 à nos jours, c'est publié aux éditions Talendier, Bruno Fulini. On y découvre que la religion est très souvent présente dans ces débats électoraux. Publié notamment le tract d'un candidat aux législatives, on est en 52 à Paris. Alors, où donne-t-il rendez-vous à ses fidèles électeurs ?
À la basilique du Sacré-Cœur. Ouais. Et en fait, bon, il est candidat aux législatives, mais ce qu'il veut surtout, c'est qu'on proclame le Christ roi. Voilà. Et donc, vous avez comme cela un certain nombre de candidats là, qui se réclament de Dieu, de la religion, des saintes écritures. Alors, deux grandes catégories. Ceux qui, comment dirais-je, sont des croyants, hein, qui font interférer leurs croyances avec le combat politique. J'ai trouvé un abbé breton, par exemple, qui combat un radical qui s'appelle Rouilly. Et alors, son argumentation est très simple, c'est Rouilly est franc-maçon, voter Rouilly, c'est commettre un péché mortel. Vous ne pouvez pas voter pour mon adversaire, sinon vous serez en état de péché, donc il faut voter pour moi. Et puis après, vous avez les candidats qui sentent un peu le fagot, par contre, qui ne sont pas forcément en odeur de sainteté.
Ils sentent le fagot,
oui.
C'est mignon ça.
N'est-ce pas ? C'est-à-dire des candidats complètement hérétiques, des candidats représentants de croyances tout à fait minoritaires et qui se présentent surtout pour faire connaître, bien sûr, leur église, leur croyances, etc. Aux législatives de 1956, il y a eu comme ça une floraison de candidats, des témoins du Christ qui étaient les disciples d'un postier mystique qui, à l'époque, s'était fait connaître sous le nom de Christ de Montfavet. Et dans leur profession de foi, c'est même Dieu qui parle. C'est-à-dire qu'ils ont eu une sorte de révélation et ont retranscrit dans la profession de foi un message dicté par Dieu qui indique que la France sera sauvée si les candidats des témoins du Christ sont élus. Malheureusement, ils furent lamentablement battus.
Grâce à vous, Bruno Fulini, on a découvert que nous avions aussi un candidat cosmique. Cette année, il s'appelle ça sent peut-être le sapin, mais il s'appelle Sylvain Durif. Quand on pensait que Sylvain, ça veut dire forêt quand même. C'est pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'il propose ?
C'est un candidat ufologue. Ah. Donc, il s'intéresse au monde extraterrestre.
Ah, hein. Oui.
Voilà. UFO, c'est l'équivalent de OVNI en anglais. Donc, un ufologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la vie extraterrestre et aux objets volants non identifiés. Et alors, lui propose d'une part de construire des bases d'atterrissage pour préparer la venue d'extraterrestres. Mmh. Mais attention, pas tous les extraterrestres, uniquement ceux qui sont bienveillants, parce qu'il y a aussi des reptiliens qui sont des extraterrestres particulièrement dangereux. Et alors là, il propose quand même des barrières cosmiques de façon à empêcher les reptiliens d'arriver.
Enfin, un programme dans cette campagne.
Voilà, un programme auquel on peut croire dur comme fer.
Même le week-end, la curiosité est un vilain défaut.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Dans moins de 70 jours, on connaîtra les deux finalistes de l'élection présidentielle. Bien malin qui peut prédire le nom des heureux élus. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'ils auront multiplié les promesses, ils en ont le temps, comme leurs prédécesseurs. Et ces promesses électorales, on les découvre avec notre invité, l'historien Bruno Fulini. Il suffit de remonter 5 années en arrière pour trouver quelques perles. Par exemple, un certain Jacques Cheminade. Que proposait-il et de quel parti il se réclame ?
Alors, c'est le candidat du Parti ouvrier européen. Il a déjà été candidat plusieurs fois. Il est d'ailleurs énarque. Hein. C'est un personnage tout à fait formé à la politique. Mais simplement, il a un programme assez grandiose avec, entre autres, l'idée qu'on peut coloniser Mars, par exemple. Donc, il y a un programme tourné vers l'espace qui est assez ambitieux et qui a beaucoup fait rire au moment où il l'a dévoilé.
Il voulait construire, je crois, des pistes d'atterrissage pour les vaisseaux extraterrestres.
Non. Là, c'est Sylvain Durif. Mais,
Durif. Je crois que Cheminade avait cette idée aussi.
Mais lui, c'est plutôt la conquête de Mars. Il veut en particulier préserver la Terre des chutes d'astéroïdes.
Parmi les candidats farfelus, il y a aussi André Dupont. Alors, sous quel nom se présentait-il ? Parce que c'était il y a quelques décennies.
Bien sûr, André Dupont, ça ne dit rien à personne, mais à Guigui Mouna, un petit peu plus, qui était ce personnage barbu, hirsute, braillard, qu'on trouvait dans les rues de Paris, souvent soit au quartier latin, soit à Beaubourg, couvert de badges, un protestataire professionnel. Alors, au départ, dans les années d'après-guerre, il était militant communiste, il s'est fait éjecter du PCF, et il est devenu élu militant d'abord du mouvement ondulatoire unifié de Pierre Dac, ce parti qui s'appelait Le Mou et qui donc invitait à voter Mou. Et puis ensuite, il est devenu aguiguiste. Hein, donc, il a fait campagne pour lui-même. Il s'est présenté à de multiples scrutins. Alors, lui, il écrivait ses affiches à la main. Donc, chaque affiche était unique. Il avait des slogans assez extraordinaires.
Ah oui, faut
du
en
style,
lire quelques-uns. Oui.
Les masses médias rendent les masses médiocres. Ouais. Prenez le pouvoir, pas le métro. Enfin, vous voyez, le côté contestataire d'avant 68, très affirmé. Bon, on peut en rire, mais...
Il avait un gouvernement aussi en tête.
Alors oui, il avait un gouvernement. Il avait un gouvernement avec Raymond DeVos comme Premier ministre. On imagine ce qu'aurait été le discours de politique générale,
oui.
sans doute inoubliable. Évidemment, Aguigui étant totalement antimilitariste, il avait proposé de confier le ministère des Armées à Léo Ferré, tout simplement, je vous laisse imaginer. Il y avait un ministère du sexe qui était dévolu à Sheila. Et puis, il y avait également un ministère de la bêtise avec un secrétariat d'État au crétinisme. Et bon, il avait prévu de les confier à Madame Soleil et à Ménie Grégoire, ce qui n'est pas très gentil.
Non.
Cela dit, ce n'est pas seulement un amuseur, Aguigui Mouna. Et par exemple, lui qui se déplaçait exclusivement à bicyclette, c'est lui qui a forgé ce terme de vélorussion que les écologistes utilisent maintenant, avec l'idée qu'il fallait remplacer les voitures par les cycles en ville.
Mais on lui doit le Vélib peut-être et tous les vélos à disposition.
Voilà. Et c'est pour ça que ces petits candidats farfelus, on en rit, mais moi je les regarde avec beaucoup d'attention, parce que souvent leur tort, c'est d'avoir raison avec 20, 30, 40, 50 ans d'avance sur les candidats des partis majoritaires.
Vous voulez dire que dans votre livre, Bruno Fulini, il y a des idées à piocher peut-être pour nos candidats actuels?
Très certainement, il y a des idées qui n'ont pas encore été réalisées, comme les bases d'atterrissage pour extraterrestres.
Ah bah oui, on y revient. Histoire amusée des promesses électorales de 1848 à nos jours, c'est chez Talendier, Bruno Fulini. Alors, moi j'aime beaucoup aussi Maurice Mercante. Alors, il se présente aux législatives à Paris en 1993, c'est récent. Dans son programme, il y a vraiment de la folie. C'est quoi, pour vous, les idées les plus dingues de son programme?
Mercante est extraordinaire parce qu'il se présente certes en 1993 aux législatives, mais il avait même tenté de le faire à la présidentielle de 81. Il se heurte à l'obstacle des signatures, mais il a des idées grandioses. Et je n'oublierai jamais le jour où, étudiant à Paris, je suis tombé nez à nez avec une de ses affiches. Ça a été un moment de fou rire et de grâce. Par exemple, lui aussi est précurseur. Il voudrait qu'il n'y ait plus de circulation automobile à Paris le week-end. Et alors, on ne remplace pas les autos par des vélos, mais par des calèches, car lui-même était ancien éleveur de chevaux. Et il trouvait que ça donnerait à Paris un cachet particulier. Ça en ferait vraiment une capitale touristique affirmée. On ne se déplacerait plus qu'à cheval à compter du vendredi soir et jusqu'au lundi matin. Il avait promis, s'il était élu président de la République, de ne pas s'installer à l'Élysée, parce que c'est moche, mais d'aller à Versailles, parce que ça a quand même plus d'allure, déjà d'un point de vue prestige au plan international. La différence, les simples citoyens seraient invités à tour de rôle à festoyer à Versailles avec leur président. Et puis, il avait également un grand programme pour supprimer le chômage. Alors ça, c'est évidemment quelque chose que l'on retrouve dans bien des programmes, mais avec une idée véritablement géniale. Il était persuadé avec son système économique de mettre fin au chômage, mais il était soucieux aussi de la langue française. Et donc, il avait proposé qu'on conserve un chômeur rétribué par l'État pour que les mots chômeur et chômage ne disparaissent pas de la langue française.
Moins d'une minute pour terminer avec Ferdinand Lope. Il faut quand même en dire un mot, parce
bien
que celui-là, on l'adore.
C'est un classique, c'est un classique hein, qui a sévi également au Quartier Latin. Ses partisans étaient les Lopettes et donc ses ennemis, les Antilopes. Lorsqu'il organisait une réunion publique, on donnait son nom à la salle, hein, donc la salle Lope, il faut bien le dire.
Bah oui. Et son parti s'appelait les Républicains indépendants de rénovation, ce qui donne...
Ce qui faisait de lui le candidat du rire. Le problème, c'est qu'en fait, lui n'était pas du tout un fantaisiste, il était très sérieux, c'est les étudiants qui le chambraient de cette façon-là. Il avait un programme de relèvement national, mais il ne voulait le révéler que s'il était élu. Et comme il n'a jamais été élu, nous sommes passés à côté de ça.
Merci Bruno Fulini, votre histoire amusée des promesses électorales est donc publiée chez Talendier. C'est la fin de cette curiosité du week-end, on se retrouve demain soir. Alors soyez là, c'est 20h pétante. Hein.
Au programme, l'agriculture connectée et puis aussi les 7 merveilles du monde.
Oui, vous allez voir, il y a un réalisateur qui les a reconstituées en 3D. Elles ont disparu pour 6 d'entre elles. Il n'y a que les pyramides de Khéops qui sont encore là. Et donc, on va pouvoir vraiment les visiter, rentrer à l'intérieur.
Elle est
ça
bien,
va être
cette
génial.
Émission.
Bah oui.
Bonne
allez, bonne fin
week-end.
De week-end à tous et à toutes dans un instant. Éric Jean-Jean et son 100% live. RTL, il est 15h.